voix Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Vanelakiza, la présentation de cette édition du lundi 24 mai 2021. Voici d'abord le sommaire. La ville de Goma, l'RDC, toujours sous le choc, deux jours après éruption du volcan Nyiragongo. Au Mali, nomination d'un nouveau gouvernement de transition. Au Nigeria, manifestation violente pour dénoncer la hausse des kidnappings contre rançon. L'Éthiopie dénonce les restrictions de visa décidées par Washington. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, part lundi pour le Proche-Orient suite au cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. La ville de Goma, dans l'est de la RDC, subit des secousses suscitant la peur des habitants à peine revenus chez eux, deux jours après l'éruption du volcan Nyiragongo. Au moins 20 personnes ont perdu la vie. Le point avec Abdulrahman Dia.
Pour beaucoup d'habitants de la grande ville de l'Est qui se sont résignés à rentrer, la situation reste préoccupante. L'un d'eux fait état de multiples secousses ressenties dans la ville ce lundi, jugeant cela très inquiétant. Selon une employée d'une organisation internationale, les secousses ont même provoqué des coupures d'électricité. Les écoles n'ont pas rouvert et les élèves ont été invités à rester chez eux. Samedi soir, le volcan Nyiragongo, qui surplombe la ville et le lac Kivu, est entré soudainement en éruption, provoquant la fuite des populations. De nombreuses habitations ont été englouties par la lave, qui a par ailleurs coupé la route reliant Goma à Butembo, axe principal du commerce dans le nord Kivu. Selon les autorités, 17 villages ont été touchés. La précédente éruption du Nyiragongo en 2002 avait fait une centaine de morts.
Au Mali, après plus de 12 jours d'attente, le nouveau gouvernement de transition est finalement mis en place après de nombreuses tractations. Le point à Bamako avec notre correspondant Mohamed Danyoko.
Dans ce gouvernement, on note que deux acteurs majeurs de l'ex-Conseil national pour le salut du peuple, CNSP, n'ont pas été reconduits. Il s'agit du colonel Sadio Camara, qui était le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, et le colonel Modibo Koné, qui était lui, ministre de la Sécurité. Ils sont remplacés par des généraux. Quant au colonel Ismaël Ouagé, lui garde son portefeuille de ministre de la Réconciliation nationale en même temps que le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga de l'administration territoriale qui lui aussi garde son portefeuille. Les groupes armés signataires de l'accord de paix sont aussi représentés à travers le ministre de la Jeunesse et des Sports, Moussa Agg Atayer, et celui de la bonne gouvernance et des relations avec les institutions, Maître Harouna Touré. Ce nouveau gouvernement, qui se veut de large ouverture, compte 5 femmes. Une dizaine de ministres font leur entrée dans ce gouvernement qui aura la lourde mission de conduire la transition pour les 9 mois restants et amener le pays vers l'organisation d'élections libres, crédibles, transparentes et surtout acceptées des Maliens. Mohamed Danyoko, VOA Bamako.
Le principal syndicat malien a lancé lundi une deuxième grève de 4 jours en émoi à la suite de l'échec de négociations salariales avec le gouvernement. L'Union nationale des travailleurs maliens, qui regroupe des salariés des secteurs publics et privés, entend ainsi peser sur les négociations salariales lancées avec les autorités de transition. Au Nigeria, des centaines de jeunes en colère ont manifesté à la sortie d'Abuja. Ils ont bloqué une autoroute pour protester contre la hausse des kidnappings contre rançon dans la périphérie de la capitale fédérale. Claire Morin-Gibourg.
Au cri de « les kidnappings doivent cesser », les manifestants ont dressé des barricades et brûlé des pneus sur la route entre Abuja et Kaduna et ils ont mis le feu à un commissariat. Il y a 5 jours, ils ont enlevé 4 personnes et hier, ils sont revenus et en ont enlevé 16, a témoigné l'un des protestataires qui n'a pas souhaité divulguer son identité. Selon les médias locaux, 12 personnes ont été enlevées sur cette route rien que la semaine dernière. La police de l'État du Niger a confirmé l'enlèvement de 6 personnes dans la nuit de dimanche à lundi, mais a vivement condamné les manifestations menées, selon elle, par des voyous. Des dizaines de camions et de camions-citernes étaient toujours bloqués à la mi-journée à la sortie de la capitale fédérale. Le Nigeria fait face à de nombreux problèmes d'insécurité, dont des kidnappings contre rançon. Ces enlèvements visaient auparavant les Nigérians les plus riches ou les expatriés, mais se sont maintenant étendus à toutes les classes sociales, même les plus pauvres.
Une ONG algérienne de défense des droits humains a dénoncé lundi l'escalade de la répression dans le pays en pleine campagne électorale pour les législatives de juin. Selon Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, 62 personnes ont été placées en garde à vue dans cette préfecture. Le chef de la milice Janjaweed, force supplétive du gouvernement soudanais accusé d'exactions durant le conflit du Darfour, a personnellement commis des meurtres dans cette région de l'ouest du Soudan, ont déclaré lundi à La Haye les procureurs de la CPI. Ali Mohamed Ali Abdelhaman, connu sous son nom de guerre Ali Kosheib, a comparu lundi devant la cour qui l'accuse de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les États-Unis ont décidé d'imposer des restrictions de visa à des responsables érythréens et éthiopiens accusés d'avoir mis de l'huile sur le feu dans le conflit au Tigré. Washington déplore que les personnalités visées n'ont pas pris de mesures significatives pour mettre fin aux hostilités. Les précisions de Jean-Roger Dion.
Les restrictions de visa visent d'actuels ou d'anciens responsables gouvernementaux éthiopiens ou érythréens, des membres des forces de sécurité et d'autres personnes, y compris des forces régionales et irrégulières de l'Amara et des membres du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF. Les États-Unis prévoient également des restrictions de grande échelle en matière d'assistance économique et sécuritaire à l'Éthiopie, mais prévoient en revanche de poursuivre leur aide humanitaire dans les domaines comme la santé, l'alimentation et l'éducation. Dans un communiqué, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que Washington prenait ses mesures avec l'objectif d'avancer vers une sortie de crise, ajoutant qu'il était temps que la communauté internationale agisse. En avril, l'administration américaine avait pressé l'Éthiopie d'accélérer le retrait des troupes érythréennes impliquées dans le conflit. Les affrontements dans le Tigré ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés depuis novembre dernier.
L'Éthiopie a aussitôt réagi en qualifiant de malheureuses les sanctions américaines. La pandémie de COVID-19 est entretenue par une scandaleuse inégalité dans la distribution des vaccins, a déclaré lundi le chef de l'OMS. Plus de 75% de tous les vaccins ont été administrés dans seulement 10 pays, a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors de l'ouverture de l'Assemblée annuelle des ministres de la Santé des 194 États membres. Le programme COVAX a livré 72 millions de doses de vaccins à 125 pays, ce qui est à peine suffisant pour 1% de leur population, a-t-il dit.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, quitte ce lundi Washington pour se rendre à Jérusalem à la rencontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Ramallah pour s'entretenir avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Il se rendra également en Égypte et en Jordanie. Les précisions de John Linden.
À la demande du président Biden, je me rends à Jérusalem, Ramallah, Le Caire et Amman pour rencontrer les parties afin de soutenir leurs efforts pour renforcer un cessez-le-feu après le conflit meurtrier entre Israël et Gaza, a déclaré le chef de la diplomatie américaine. Les États-Unis se sont engagés dans une diplomatie active pour mettre fin aux hostilités et réduire les tensions, a-t-il ajouté. Anthony Blinken va rencontrer les dirigeants israéliens pour évoquer le soutien inébranlable des États-Unis à la sécurité d'Israël. Il poursuivra les efforts de notre gouvernement pour rebâtir les liens avec les Palestiniens et leurs dirigeants, ainsi que notre soutien à leur endroit après des années durant lesquelles ils ont été délaissés, a déclaré pour sa part le président Joe Biden dans un communiqué distinct. Dans la foulée du cessez-le-feu entré en vigueur vendredi entre Israël et le Hamas, Joe Biden et Anthony Blinken ont assuré que la solution à deux États, israéliens et palestiniens, vivant côte à côte, est la seule solution.
Le président américain Joe Biden a dénoncé lundi les attaques abjectes contre la communauté juive sur fond d'augmentation des actes antisémites aux États-Unis, alimentés par le conflit au Proche-Orient. La police new-yorkaise enquête sur l'agression jeudi d'un homme juif à Times Square. 5 ou 6 hommes ont roué de coups et aspergé de spray au poivre un homme de 29 ans, tout en lui lançant des injures antisémites. Une vidéo de la scène a été diffusée par le New York Post. L'Agence internationale de l'énergie atomique a prolongé lundi son compromis technique avec l'Iran sur les inspections du programme nucléaire. Cette extension offre un sursis aux grandes puissances négociant à Vienne pour sauver l'accord international sur le nucléaire iranien conclu en 2015. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique, retrouvez John Lyndon pour la Minute Éco.
L'Éthiopie a attribué une licence à un consortium conduit par le Kenyan Safaricom qui mettra un terme au monopole de la compagnie publique Ethio Telecom. Ce consortium, qui comprend également le Britannique Vodafone et le Sud-Africain Vodacom, a proposé 850 millions de dollars pour l'obtention de cette licence. L'autre Sud-Africain, MTN, qui proposait 600 millions de dollars, a vu sa candidature rejetée. Le niveau d'endettement de la Mauritanie est de l'ordre des 5 milliards de dollars, soit plus de 60% de son PIB estimé à environ 7,5 milliards de dollars. Le service de la dette est de plus de 200 millions de dollars selon le consortium Franklin Finance, recruté en décembre 2020 pour aider la Mauritanie à gérer sa dette extérieure que le pays entend renégocier avec les partenaires du G20. L'autorité du canal de Suez a réduit à 550 millions de dollars le montant de l'indemnisation qu'elle réclame pour le blocage de la voie maritime fin mars par le porte-conteneur géant Ever Given. Initialement, le Caire avait réclamé 916 millions de dollars. Près de 19 000 navires ont emprunté le canal de Suez en 2020, soit une moyenne de 51 navires par jour.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir, Yacouba Ouédraogo, avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir à tous. On connaîtra ce soir tous les clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Basketball Africa League. À l'issue du match entre les Zamalek d'Égypte et le groupement sportif des pétroliers d'Algérie, pour rappel, ce match comptant pour la deuxième journée avait été reporté pour des raisons liées au protocole sanitaire et sécuritaire, selon la BAL. Les Égyptiens sont déjà qualifiés pour les quarts. Les Algériens, eux, cherchent à accrocher une des deux places de meilleure troisième qualificative pour le tour suivant. Hier, les Mozambicains du Ferroviaro de Maputo ont validé leur billet pour les quarts en battant les mêmes Algériens du JSP 86-73. Les Tunisiens de l'US Monastir ont fait de même en dominant les Rwandais de Patriotes 91-75. Un sans faute pour l'US Monastir pour l'instant, tout comme les Angolais de Petro de Luanda qui ont aussi signé 3 victoires en 3 matchs, le dernier contre les Marocains de l'AS Salé. Score final 97-78. Les qualifiés pour les quarts de finale se présentent comme suit par groupe. Dans la poule A, il s'agit de l'US Monastir de la Tunisie et des Patriotes. Dans la poule B, il s'agit des Angolais de Petro Luanda et des Marocains de l'AS Salé. Et enfin, dans le groupe C, le Zamalek et Ferroviaro de Maputo sont les qualifiés. Pour les deux autres places de meilleur troisième qualificatif pour les quarts, ça se joue entre FAP du Cameroun, l'AS Douane du Sénégal avec 1 victoire chacun et le JSP d'Algérie en 4 victoires ce soir devant le Zamalek. Les Maliens de l'AS Police sont out de la compétition après 3 défaites en 3 matchs, dont la dernière en date hier devant les Camerounais de FAP. Le coach des Maliens justifie cet échec par la jeunesse de son équipe.
Pour ces 3 matchs-là, ils ont beaucoup appris. On va travailler davantage. Le nouveau niveau, c'est comme ça. Ils n'ont pas l'habitude de jouer le nouveau niveau. À travers ces 3 matchs-là, je pense qu'ils ont beaucoup appris. On va travailler davantage pour encadrer les autres.
Boubacar Kanoté, coach de l'AS Police. Football à présent, les affiches des demi-finales de la Ligue des champions CAF sont connues. À la Ligue joue l'Espérance de Tunis, les Égyptiens tenants du titre ont bien géré leur quart de finale retour chez les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns, un but partout. Après leur victoire 2-0 à l'aller, les Tunisiens, eux, ont réussi à remonter leur handicap de 2-0 face aux Algériens du CR Belouizdad avant de s'imposer 3-2. L'autre demi-finale opposera les Marocains du Wydad de Casablanca aux Sud-Africains des Kaizer Chiefs, qualifiés malgré leur défaite 3-0 face aux Tanzaniens de Simba qu'ils ont battu 4-0 à l'aller. En Coupe de la Confédération, on aura aussi deux belles affiches pour les demi-finales. Le Raja de Casablanca, vainqueur 4-0 des Sud-Africains d'Orlando Pirates, après le nul 1-1 du match aller, affrontera les Égyptiens de Pyramide FC, tombeur des Nigériens de Nimba. Dans l'autre demi-finale, les Algériens de la JS Kabylie vont en découdre avec les Camerounais du Coton Sport de Garoua. Les matchs allés de ces demi-finales auront lieu le 18 juin prochain.
Merci à Kouba pour l'espoir. Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Mandakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. La ville de Goma, au pied du volcan Nyiragongo, entrée en éruption samedi dans l'est de la République démocratique du Congo, était toujours secouée lundi matin par de nombreuses et fortes secousses, suscitant la peur des populations locales. De forts séismes ont été ressentis également lundi au Rwanda, dans le district de Rubavu, frontalier du volcan Nyiragongo. Marius Murunga a joint à Goma le journaliste Justin Kabumba.
Oui, les secousses continuent, c'est ce qui essaie un peu de créer encore une psychose dans les chefs de la population, parce que quand ça passe, il y a cette crainte-là, il y a la peur qu'on voit visiblement dans les chefs de la population. Et c'est, il faut dire en tout cas que c'est un peu fort, mais depuis les environs de midi, ça ne se fait plus attendre comme on le voyait hier dimanche et tout l'avant-midi de ce lundi.
Quel est le bilan actuel dû à cette éruption?
Il y a un peu de controverses autour des bilans. On attend ce soir et il y a le gouvernement provincial qui a, donc dirigé bien sûr par les militaires, qui a promis donner un bilan. Moi, personnellement, j'ai rencontré une famille qui m'a déclaré 10 morts, mais aujourd'hui plusieurs médias, surtout les médias locaux, parlent d'une dizaine de personnes décédées.
Quelles sont les dispositions qui ont été prises sur place par le gouvernement pour venir en aide aux victimes?
En tout cas, pour l'instant, rien n'est fait. Seulement que c'est depuis le matin de ce lundi qu'une délégation venue de Kinshasa est arrivée à Goma, une délégation composée de 7 ministres. Ils ont tenu une réunion d'urgence. Jusqu'à là, on ne sait pas ce qui est sorti de cette réunion.
On parle également d'une route qui a été endommagée par les laves.
C'est une route qui relie la ville de Goma. C'est cette route-là qui mène dans plusieurs territoires, comme le territoire de Rutshuru. Vous savez, Rutshuru, c'est l'un des territoires du Nord Kivu qui alimente la ville de Goma. Du coup, on constate cette coupure de la route. On peut craindre peut-être dans les jours qui suivent que ça n'impacte pas sur la vie socio-économique de la population de Goma, une ville qui dépend en grande majorité de ceux qui viennent des territoires comme Rutshuru. Pas une communication côté gouvernement qui confirme que toutes ces personnes qui se sont déplacées vers la ville voisine de Gisenyi au Rwanda, si réellement ces déplacés sont revenus. Mais néanmoins, il faut préciser qu'on a été sur terrain, on a vu quand même les gens qui ont retourné. Mais pour l'instant, on n'est pas confirmé. Et c'est depuis d'ailleurs hier dimanche, on a vu ces gens commencer à retourner à Goma. Même chose pour ceux qui s'étaient rendus, ceux qui ont fui vers la partie sud de la ville, également dans les territoires des Massis, plus précisément à Sake. Seulement qu'on constate que les gens, surtout ceux qui ont fui et qui ont perdu leur maison, et ce sont ces gens-là qu'on constate, après leur retour, ils ont passé leur première nuit à la Belle Étoile. C'est ces gens-là où il y a une crainte parce qu'ils ne savent plus là où retourner après avoir tout perdu dans ces volcans.
Justin Kabumba, journaliste à Goma.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
New York, la ville qui ne dort jamais, reste enfin debout après 14 mois de fermeture de la plupart des salles de restaurants et cafés en raison du coronavirus. Aucune autre ville des États-Unis n'a été aussi durement touchée que New York, où le retour à la vie nocturne est un signe d'espoir pour d'autres mégapoles dans le monde. Un reportage de Tina Trine, relaté par Nathalie Barge.
Pour le premier week-end depuis le début de la pandémie, les bars et restaurants de New York ont ouvert sans restriction de masques pour les personnes vaccinées. Christina Albert, gérante de restaurant.
Nous avons été durement touchés pendant la pandémie. C'est donc formidable de voir tout le monde sortir. Tout le monde est sympathique, tout le monde s'amuse.
Les repas en salle sont désormais autorisés à 100% des capacités et le métro a repris le service 24 heures sur 24. Un grand contraste par rapport à l'année dernière lorsque Christina a emménagé en ville.
C'était une ville fantôme. Je suis vraiment excitée de voir la ville de New York revenir à la vie, en particulier le centre-ville et le quartier des théâtres.
Certains New Yorkais regrettent que de nombreux habitants aient quitté la ville pendant la pandémie, comme Daniel Ersile, enseignant.
Je veux juste dire à tous les gens qui ont quitté New York que nous sommes de retour.
Plus de 3,4 millions de New Yorkais, soit 41% de la population, sont entièrement vaccinés contre le coronavirus.
La beauté de New York est que nous portons toujours des masques lorsque cela est nécessaire. Nous essayons d'équilibrer le plaisir et de prendre soin les uns des autres.
Janilda Rosario, copropriétaire d'un bar sportif.
Nous sommes heureux de voir que ça commence à redevenir normal. Vous savez, c'est comme avoir de la famille dans votre salon après avoir connu la solitude.
Pour Anton Deyrit, propriétaire d'un restaurant philippin, il était temps de reprendre les affaires au bout d'une année de fermeture.
Nous avons ouvert une semaine avant le verrouillage en 2020 et nous avions été forcés de fermer nos portes.
Lors de la soirée d'ouverture, il y avait une heure d'attente pour avoir une table dans son restaurant.
J'ai une table pleine ici, j'ai une file devant la porte, les gens arrivent, New York retrouve son énergie.
Jared Major, propriétaire d'un bar musical, a improvisé avec des sièges et des scènes extérieures pour les concerts.
Je suis reconnaissant de ce retour à la normale. Mon bar est reconnaissant, mon personnel est vraiment reconnaissant.
Mario Zarati a également fait salle comble dans son restaurant cubain.
Je n'ai jamais douté que New York reviendrait à la normale. New York va rebondir et ça va être mieux qu'avant.
Après plus d'un an de restrictions en raison de la pandémie de Covid-19, New York, qui a retrouvé ses nombreux noctambules, peut à nouveau se vanter du statut de la ville qui ne dort jamais.
Alors que le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas se maintient depuis vendredi dernier, le conflit entre l'État hébreu et les Palestiniens met en lumière l'approche diplomatique du président Joe Biden face aux défis internationaux. Il envoie ce lundi le secrétaire d'État Anthony Blinken à Jérusalem pour rencontrer le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le chef de la diplomatie américaine se rendra ensuite à Ramallah pour s'entretenir avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, puis en Égypte et en Jordanie. Michel Quinn fait le point sur la situation. Dilidico fait le récit.
Le cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas marque la première implication de Joe Biden dans la résolution d'une crise de politique étrangère majeure depuis le début de son mandat. Ce conflit a mis en lumière l'approche de Biden dans la gestion des crises internationales. Pendant les 11 jours d'affrontement, Biden a soutenu publiquement Israël, mais il apparaît que le président américain a travaillé en coulisses avec les négociateurs égyptiens et Israël pour mettre fin aux hostilités. Écoutons à ce sujet Anthony Blinken, secrétaire d'État américain.
Nous sommes parvenus à ce résultat grâce à l'attention constante du président Biden sur ce type de diplomatie discrète et, je pense, efficace visant à parvenir à un cessez-le-feu et à arrêter les violences en 11 jours.
Les efforts de Biden ont fini par porter fruit alors que l'artillerie et les raids aériens israéliens ont fait 248 morts dans la bande de Gaza, un territoire contrôlé par le groupe militant palestinien Hamas. Plus de 4000 roquettes ont été tirées de Gaza sur Israël, faisant 13 morts. Biden subit la pression des progressistes du Parti démocrate, qui qui veulent que l'administration adopte une ligne de conduite plus dure envers Israël et fasse davantage pour soutenir les Palestiniens. Les démocrates progressistes s'inquiètent également du fait que les États-Unis vendent des armes à Israël. Une livraison d'une valeur de 735 millions de dollars est prochainement attendue. Le secrétaire d'État Blinken, qui se rend ce lundi à Jérusalem, Ramallah, Le Caire et Amman à la demande du président, a déclaré que Biden souhaite qu'Israël ait les moyens de se défendre, mais l'avis du Congrès sur la vente d'armes reste tout de même important. Écoutons à nouveau Anthony Blinken, secrétaire d'État américain.
Toute vente d'armes se fera en pleine consultation avec le Congrès. Nous nous y engageons et nous voulons nous assurer que ce processus fonctionne efficacement.
Quant aux républicains, ils soulignent le rôle du Hamas financé par l'Iran et expriment leur inquiétude face à la possibilité que l'administration Biden lève les sanctions contre l'Iran dans le but de persuader Téhéran de respecter les engagements pris sous l'accord nucléaire de 2015. Entre-temps, Biden a fait savoir que les États-Unis travailleraient avec les Nations Unies pour fournir une assistance humanitaire à Gaza et aider à la reconstruction de ce territoire palestinien.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
L'équipe des forces armées et police FAP et le représentant du Cameroun dans la Ligue africaine de basketball, organisée avec le soutien de la NBA. FAP est l'un des clubs institutionnels du pays et bénéficie des financements publics qui permettent à cette équipe de se maintenir à un niveau supérieur de basketball sur le plan local. Mais pour les autres clubs, il faut d'énormes sacrifices et beaucoup d'endurance pour pratiquer la discipline. Cependant, de nombreux jeunes Camerounais aspirent à faire carrière dans le basketball, comme vous allez le constater dans ce reportage de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap.
Touché sur le dos, genou à la poitrine, on tire un.
Derniers exercices physiques d'avant-match pour l'équipe de basketball à Escape the Dream. Nous sommes à l'esplanade du palais des sports de Yaoundé. À Escape the Dream, dispute un match de championnat de la Ligue régionale du basketball du centre contre Biémassi Falcon, un club de Yaoundé.
Allez, s'il défend l'individuel strict, drivez vers l'intérieur pour provoquer. C'est compris, les gars.
60% des clubs locaux proviennent de cette ligue basée à la capitale Yaoundé. Le championnat se dispute chaque samedi et dimanche entre les mois de février et juin et regroupe toutes les catégories. Mouel et Toukanana, poste 4 de Biémassi Falcon.
Nous avons par exemple nos aînés académiques qui ont travaillé dur pour pouvoir être qualifiés pour la balle du au Rwanda. Il est question qu'on essaye de suivre leurs exemples.
C'est sur un sol dur que les jeunes basketteurs camerounais démontrent leur talent. Jean-Daniel Mouchal, entraîneur d'Escape the Dream.
Les infrastructures et les équipements qui sont encore assez chers pour nous. Vous voyez les maillots, les ballons, puisque nous jouons outdoor, nous jouons dehors. Puis ça use beaucoup, le ballon, le tennis, on en a besoin, c'est extraordinaire, c'est dur. Et puis les enfants ne sont pas rémunérés, c'est aussi un autre aspect.
FAP, BEAC, INGS, YUK, Condor sont quelques noms de clubs mythiques du basketball camerounais. Des clubs institutionnels qui n'ont aucun titre continental. L'équipe nationale encore moins.
Mais je pense que le basketball camerounais a un énorme potentiel. On peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait actuellement.
Yves Tchala, ancien international camerounais, président de la Ligue régionale de basketball du centre.
Au niveau du Cameroun, on forme bien les juniors, mais à un moment, les gens partent parce qu'on n'a pas beaucoup de perspectives dans les catégories compétitives seniors parce qu'on n'est pas professionnel, on n'est même pas vers les semi-professionnalistes.
La Ligue africaine de basketball est une lueur d'espoir pour la fédération. Une fois encore, Yves Tchala, ancien international camerounais.
Avec l'avènement de cette compétition, les gens peuvent envisager de rester davantage ici parce qu'on peut jouer la balle et avoir certains revenus. On peut se faire voir à travers différents circuits dans le monde et trouver la chance ailleurs en Afrique ou en Asie. Et ça peut nous redonner de la force pour le discours vers les jeunes, pour les motiver donc à pouvoir s'entraîner davantage, à se mettre sur ce créneau. En même temps, ça nous met la pression à nous pour aller aller vers le semi-professionnel parce qu'on va arriver à une étape où si vous ne vous accrochez pas, vous restez.
Pascal Siakam, Joel Embiid, Luc Mbambouté, des Camerounais de la NBA sont des sources d'inspiration pour les jeunes basketteurs camerounais qui rêvent tous d'une carrière similaire. Yaoundé, Emmanuel Jundap, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Michel Claire-Joseph, Georges et Léonard Sagno, Lionel Donanda-Gahima et José de Morissin. Eric Manirakid a été avec vous à la présentation ici dans le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, restez branchés sur voafrique.com, sans oublier notre page Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de notre programme. À la prochaine.